Dollar US sur le marché d'échange. Les traders institutionnels ont-ils changé leur fusil d'épaule? Point complet sur le tout dernier positionnement institutionnel et analyse technique du taux euro-dollar, GBP-USD et USD-Yen, le tout avant la très attendue inflation PCE du vendredi 31 mai à 14h30. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons causer ensemble du dollar US, de l'euro dollar, du GBP USD, de l'USD Yen, des stratégies Forex, d'analyse technique. On va être précis. Je vais donner des seuils. Je suis allé vous chercher les toutes dernières données de positionnement institutionnel et il se passe quelque chose. Oui, les amis, il se passe quelque chose. Car depuis le début de l'année, vous le savez, ça. Vous suivez le programme Fast and Forex chaque mercredi. Je vous en remercie d'ailleurs. Et donc, vous savez que dollar US, USD, de son code DXY sur toutes les plateformes de trading, est leader depuis le début de l'année. Il est leader pourquoi? Dites-moi. À vous la parole. Bonne réponse. Il est leader parce que les anticipations de positionnement, n'importe quoi, les anticipations de politique monétaire liées à la Réserve fédérale des États-Unis, décidément, sommes que mercredi en plus, hein, font que le pivot de la Fed est sans cesse reporté. Il n'aura peut-être même pas lieu. On verra bien. Bon, en début d'année, le marché envisageait 7 baisses de taux, maintenant une, voire zéro, peut-être moins une baisse de taux. Qu'est-ce que c'est, moins une baisse de taux? C'est une hausse de taux de plus. Bon. Et donc, cette semaine, vous avez, vendredi, je vous en ai parlé dans le Top Gun, et je vais en mettre une bonne couche, troisième couche. C'est comme ça, la peinture au mur, il faut deux sous-couches, allez, une sous-couche, trois bonnes couches, après ça dépend de la couleur, bon, une couche, sur cette inflation PCE, très attendue vendredi, parce que, deux choses. Première chose, le CPI, qui est l'autre baromètre d'inflation, a réengagé dans sa dernière mise à jour sa tendance baissière en version sous-jacente. Bien, le marché n'y croyait plus. Ce qui d'ailleurs a fait se replier depuis début mai le dollar US. Si là je traite le sujet du dollar US, c'est que depuis le 1er mai, il baisse, alors qu'il avait monté du 1er janvier au 30 avril. Et donc tout le monde se pose la question. Est-ce qu'il a fait son point haut? Du coup, est-ce que l'euro dollar a fait son point bas? Est-ce que le GBP USD a fait son point bas? L'USD Yen, bon, c'est différent parce qu'il y a aussi la BOJ. Va-t-il finir de monter? Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai accédé aux toutes dernières données de positionnement institutionnel sur dollar américain. Eh bien, les institutionnels sont passés net vendeurs la semaine dernière sur l'ensemble de leur position dollar face aux monnaies du G10. Pourquoi? Anticipe-t-il que l'inflation PCE de ce vendredi va confirmer le CPI en reprenant elle aussi, une pente baissière? C'est le sujet de cette vidéo, c'est le sujet de la nouvelle édition du Fast and Forex. Et c'est donc sans transition que nous attaquons le Fast and Forex. Dites-moi d'ailleurs, vous préférez le Top Gun ou le Fast and Forex? Peut-être que vous n'aimez ni l'un ni l'autre. Au final, les deux traitent de sujets assez différents. Parfois, ils se croisent. Alors que le marché attend la mise à jour cette semaine des chiffres de l'inflation aux États-Unis et au sein de la zone euro, vous allez avoir l'inflation allemande notamment. Il semble que les investisseurs institutionnels soient en train de changer leur fusil d'épaule en termes de positionnement sur le dollar US. Le risque de baisse prend-il le dessus en attendant l'inflation US spéciale? Voilà les quatre parties. Dollar US, euro dollar, GBP USD et USD Yen. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Première partie, dollar US. Les institutionnels repassent net vendeurs avant le PCE du 31 mai. Il repasse net vendeur. Les illustrations arrivent, chers amis. Permettez-moi de terminer avec mon petit texte et je vous montre toutes les illustrations. Les institutionnels ont-ils changé leur fusil d'épaule? Sont-ils repassés short pour de bon sur le dollar? C'est la grande question que nous nous posons ici. Allez, quand même, je fais apparaître une première illustration parce que trop de suspense tue le suspense. Voilà, sous vos yeux, un premier graphique qui m'a amené à retraiter ce sujet. La semaine dernière, j'ai traité le sujet du cours de l'argent métal, d'ailleurs, qui a fait un beau rebond sur support et qui surperforme le gold. Mais là, c'est le dollar. Vous avez sous les yeux le positionnement net institutionnel. Concentrez-vous sur la courbe noire. Ce positionnement net institutionnel des asset managers et des leverage funds, donc vous avez les traders d'asset management et les traders de hedge fund, ce qu'on appelle les traders institutionnels en additionnant les deux catégories, et vous avez donc en noir la position nette. Une position nette, c'est la différence entre les positions à l'achat et les positions à la vente. Si la position nette dépasse zéro, c'est qu'il y a davantage d'exposition à l'achat que d'exposition à la vente. Si la position nette est sous zéro, c'est que, dans l'ensemble, les traders de hedge fund et d'asset management, dans leur majorité, repassent à la vente sur le dollar. Et donc, ce qu'il se passe depuis le début du mois, c'est ça. Et là, vous avez les toutes dernières données. La position nette est repassée sous zéro. Et historiquement, les croisements vis-à-vis de la ligne de zéro sont des bons signaux tendanciels. La question que tout le monde se pose, c'est que ce dollar américain, le dollar US, que vous avez ici face à un panier de devises, alors qui certes est en hausse depuis le début de l'année, je vous remontre ici le classement des indices devises depuis le début de l'année. Vous savez comment faire. Si c'est pas le cas, je vous rappelle que sur TradingView, petit tuto express, vous avez ce petit bouton-là pour ajouter des symboles à comparer. Ils apparaissent tous sur l'axe des ordonnées. Vous vous mettez en échelle pourcentage et vous cliquez sur YTD pour avoir le classement depuis le début de l'année. YTD signifiant year to date, c'est-à-dire à date du jour, la performance sur l'année. Ok ? Donc, tout en haut, vous avez le DXY. Il est leader, le dollar. Toutes les autres devises sont en baisse. Bon. Et notamment ce bon vieux franc suisse. Et je vous avais fait une vidéo en début d'année expliquant ma stratégie de baisse modérée du franc. Bon, cool. Je me suis pas planté. Oui, parfois, je me plante par contre. Parce que j'anticipais un rebond du yen, alors qui certes a eu un premier début de rebond, mais qui retrace, bon, là, je me suis planté. Mais je vais quand même faire le suivi de l'USD yen. Alors, donc, la question qu'on se pose, c'est que ce repli depuis, vous avez eu, regardez, ici, lors de la session boursière du mercredi 1er mai, une structure en avalement baissier, terminologie japonaise, associant la bougie du 30 avril et du 1er mai. L'association de ces deux bougies était une bougie de renversement baissier avec un double top qui venait rappeler ce double top un peu plus grand, les niveaux d'activation étant les mêmes. Depuis, nous sommes dans une phase de baisse et le dollar s'accroche à sa moyenne mobile à 200 jours. S'il brise sa moyenne mobile à 200 jours, il rechutera ici, validant ce que j'estime être moi, depuis des mois et des mois, la construction d'une vague B. Je ne vais pas refaire tout le laïus sur les formes possibles de la vague B. L'idée, c'est une phase de transition latérale avant plus tard dans l'année et d'ici Noël de reprendre la direction du sud sur fond d'un pivot de la Fed. Ok. Maintenant, l'idée, c'est, je me suis intéressé à qu'est-ce qui se passe depuis le prix à corriger. Mais l'analyse technique consiste à associer les données de volume et de prix et tout un tas d'outils d'analyse. Lorsque vous avez une phase de baisse de prix, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est le point de départ d'une chute moyen terme? Déjà, on regarde les niveaux techniques. Est-ce qu'il y a des patterns? Est-ce qu'il y a des résistances moyen terme? Mais on regarde aussi ce qui structure le prix, et notamment les données de volume, de positionnement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, dans cette phase de baisse, s'il y avait eu un maintien de la position nette sur le dollar, eh bien, ça aurait été qu'une phase de retracement pour repartir à la hausse. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette phase de baisse du dollar depuis un mois, vous avez eu un retournement aussi de la position nette institutionnelle, qui est donc passée négative. Et donc, vous avez, je vous ai mis tout un tas de choses à gauche que vous pouvez lire tranquillement. Cette position nette institutionnelle qui est repassée négative, c'est intéressant. Et ici, vous avez l'évolution du positionnement du dollar, de la position nette face à toutes les devises ici, face à cette sélection de devises. Et il y a eu effectivement un retournement, un retrait global, pour sauf face au yen. Alors, depuis la session boursière du mercredi 1er mai, le DXY est en baisse sur le Forex. C'est en effet la reprise de la désinflation US selon le CPI. Donc vous avez sous les yeux l'indice des prix CPI, qui, je vous rappelle, hein, vous avez trois gros baromètres d'inflation. Vous avez le PPI, le CPI et le PCE. La Fed accordant sa priorité au PCE. Mais le CPI est quand même regardé. le CPI est quand même observé. Et donc, vous avez eu une reprise, après un trimestre de pause, de l'allure baissière du CPI dit sous-jacent. Sous-jacent ou core, en anglais, ce soit soit underlying ou core CPI, c'est-à-dire tous les items, toutes les composantes de l'inflation, moins ce qui est jugé volatile, la bouffe et l'énergie. Bon, très bien. Maintenant, la grande question, c'est que va-t-il se passer avec l'indice d'inflation favori de la Réserve fédérale des États-Unis. Cet indice d'inflation, il a un petit nom, c'est le PCE. Retenez ces trois lettres. Bon, en même temps, je pense que vous les avez retenues parce que j'en parle tout le temps. C'est le juge de paix suprême. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Alors, c'est pas vrai. La Fed pourrait baisser ses taux et commencer à pivoter si le chômage se met à exploser. Ou un moment ou un autre, eu égard à l'énormité de la dette américaine. La dette américaine est astronomique. Et elle continue d'être alimentée par des déficits budgétaires de fous furieux. Ça ne va pas changer. Donc, à un moment ou un autre, la charge de la dette sera tellement importante que de toute façon, la Fed ne pourra pas maintenir son taux au-dessus de 5. Ça va couler le gouvernement US. Arrivera un moment où il faudra... l'inflation, bah, elle est là. De toute façon, on ne reviendra pas au monde d'avant et il faut baisser les taux parce que on va couler le gouvernement US, enfin, le trésor public US. Non, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que moi, overall, je pense que les obligations seront soutenues. Mais bon, là, on ne parle pas d'obligations, nous parlons du dollar US. Bon. Et donc, cette semaine, l'idée, c'est quoi? Le dollar, nous avons observé un retournement de la position nette institutionnelle qui repasse sous zéro. Est-ce que cela compte vraiment avant le PCE? La réponse est non, en effet. Si vous voulez, si vous aviez eu ce mouvement-là de repli de la position nette institutionnelle, mais après le PCE, ça aurait été vraiment convaincant. Parce que nous savons que lorsqu'on recroise la ligne de zéro, c'est un bon signal. Mais voilà, le PCE est vendredi. Mais par contre, si ce vendredi, ça fait beaucoup de si, et après j'arrête avec les si, si ce vendredi, vous avez un PCE qui s'est mis ici à plat, état de 8 depuis le début de l'année, qui réengage sa tendance baissière, ça c'est en version annuelle, c'est-à-dire un alignement sur le CPI qui a repris la direction du sud. Si vous avez un alignement avec un PCE qui reprend la direction du sud et un retour du taux de croissance mensuel de la version mensuelle du core PCE qui dans le monde d'avant évoluait entre 0 et 0,20, alors que depuis le début de l'année, on se stresse parce qu'il y a un rebond à 0,50, 0,3, 0,3, mais les anticipations sont 0,2 pour ce mois-ci, eh bien, dans ce cas, nous aurons la confirmation du retournement de la position nette institutionnelle. Donc, ces chiffres, vraiment, de l'inflation US-PCE sont déterminants ce vendredi, puisqu'il y a, pour résumer, des pré-signaux techniques d'affaiblissement du dollar US sur le marché d'échange. C'est le rebond de l'euro-dollar que vous avez observé, c'est le rebond du GBP-USD que vous avez observé. Il y a quand même un chiffre dont la force, dont la dimension ce vendredi est capable de transformer ces pré-signaux en rien du tout ou de les transformer en vrais signaux actifs. Et derrière, c'est toute la tendance de juin qui se dessine. Vendredi, en fonction du chiffre, moi je sais en juin où ira l'euro-dollar, où ira le GBP-USD, où ira l'USD-Yen. Et maintenant, on va regarder justement toutes les considérations techniques parce qu'à un moment ou à un autre, il faut les poser sur la table. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque fois dans mes vidéos. Et donc, posons-les sur la table. Bien sûr, notre mug de café, hein, notre mug de thé, en sujet de l'euro-dollar. Euro-dollar slash EURUSD, analyse technique et rebond de la position nette institutionnelle. Effectivement, là, je vous ai parlé dans le slide d'avant, je vous ai parlé de la position nette institutionnelle globale, c'est-à-dire le positionnement des traders de hedge fund plus ceux d'asset management sur le dollar américain face à un panier de devises. Maintenant, les données sont accessibles dans le détail. Et je suis notamment allé donc moi chercher les données directement du rapport Commitment of Traders sur le site de la CFTC, qui est le régulateur américain des contrats futurs, en allant voir l'euro-dollar. Et j'ai trouvé très intéressant de noter que chez les asset managers, vous avez un rebond de la position nette au même niveau ici que 2022, ce qui fut à l'époque, ce qui fut à l'époque le point de départ du rebond de l'eurodollar. Alors, est-ce que cela va dans le sens de cette structure en vague 2 que je vous propose, d'un gros triangle qui, in fine, ramènera à un 10 et au-delà, d'ici la fin de l'année, le cours de l'eurodollar? On a envie d'y croire, on a envie d'y croire. L'invalidation de ce scénario moyen terme, elle est toujours située ici au niveau des 1,0635, et j'ai même envie de vous dire qu'il faut serrer ça. Moi, je prends le cours de l'euro-dollar. Donc, ici, le positionnement net institutionnel, on a un rebond du positionnement net chez les asset managers, un rebond qui est confirmé par un rebond encore plus fort de la position net institutionnelle euro-dollar chez les traders de hedge fund, qui, dans le rapport Commitment of Traders, sont la catégorie leverage. Si vous souhaitez avoir le même outil que moi, vous allez sur le site de la Bourse de Chicago. C'est CME Group, tout attaché, cmegroup.com. Et ensuite, vous avez donc l'outil Commitment of Traders. L'outil Commitment of Traders. Vous avez ça dans la liste des outils. Bon, comme ça, vous aurez accès aux mêmes données que moi. Elles sont mises à jour une fois par semaine. Et là, j'ai trouvé ça intéressant de voir ce double rebond chez les asset managers et les traders de hedge fund. Ce qui me fait penser, mon humble avis, que cette structure ici, en vague 2 qui annonce pour la fin d'année une vague 3, est encore cohérente. Je pense que d'un point de vue fractal, elle l'est. D'un point de vue chartiste, parce qu'on associe le chartisme et le fractal, elle est cohérente, et ce, tant que les 1,06, 1,0635 font support, qui au passage sont ce niveau. Maintenant, en données journalières pour la semaine, vous notez que le marché a repris sa moyenne mobile à 200 jours, et que voilà, nous avons ici une invalidation avec cette combinaison, cette conjonction, confluence, moyenne mobile à 200, moyenne mobile à 50 jours. Bon, déjà, si le marché repassait là-dessous, ça mettrait un peu à mal cette approche. Mais en tout cas, je trouve intéressant. Et vous avez aussi, cette semaine, vous avez, alors on parle beaucoup de l'inflation US, n'oubliez pas aussi que nous avons l'inflation en Allemagne et dans d'autres pays de la zone euro pour ce mois de mai, pour ce mois d'avril, et mais publié en mai. Et bien sûr, c'est important parce que le marché a à peu près la conviction que la BCE baisse ses taux la première en juin. Par contre, l'incertitude, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Une baisse de taux en juin, c'est bien. Donc c'est un pivot. Mais en fait, un vrai pivot, c'est ensuite une série de baisses de taux. Et là, il y a du doute. Ce qui fait aussi que cela a entretenu le rebond de l'euro-dollar et du GBP-USD. Pour le GBP-USD, c'est aussi parce que en Royaume-Uni, l'inflation est hyper loin d'être vaincue. C'est vraiment le pays le dernier dans sa lutte contre l'inflation. Alors justement, donc parlons maintenant du GBP-USD. GBP-USD, analyse technique et inflation britannique résiliente. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc pour le Royaume-Uni, je me tourne du côté des datas de l'inflation CPI en version core, en version sous-jacente ou underlying. Je vous donne tous les termes parce que ça dépend des sites, des articles, mais en français, c'est inflation sous-jacente. Et en anglais, soit vous lisez core inflation ou underlying inflation. Et donc pour le Royaume-Uni, eh bien, voilà, nous en sommes encore loin, encore à 4% d'inflation sous-jacente, alors qu'aux États-Unis, en Europe, on est entre 2,5 et 3, et le monde d'avant est loin. Ce qui fait que même si la Banque d'Angleterre devait baisser ses taux, derrière, il n'y aurait pas de série de baisses de taux. Elle pourrait même être la dernière à baisser ses taux. Et je trouve que cela va dans le sens aussi de cette structure, d'ailleurs, que je vous proposais. Je suis assez content parce que là, le marché m'a donné raison. En tout cas, le marché m'a donné raison avec un rebond dans la partie basse de la pattern. Ça, c'était donc le niveau d'invalidation que je vous avais proposé dans le Fast and Forex il y a 3 semaines. Et maintenant, le marché teste la partie haute ici de la pattern. Et d'une certaine façon, alors moi, ça, c'est une structure en vague 2 auquel je crois encore. Maintenant, ça, c'était le niveau d'invalidation initial. Je vais vous proposer, comme pour le cours de l'euro-dollar, d'utiliser la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile à 200 jours, qui sera le nouveau seuil d'invalidation pour cette proposition d'une vague 2 dans le cadre d'un cycle lotiste, toujours pareil, en 5 temps. Naturellement, n'oubliez pas que l'analyse technique, c'est la combinaison des facteurs techniques. Et regardez la perfection pour le GBP-USD. Vous avez l'analyse fractale, l'analyse chartiste et l'analyse dans le Nishimoku qui donnent les mêmes niveaux d'invalidation. Donc, tant que toute cette zone ici tient, nous sommes dans cette approche bullish ici pour le taux GBP-USD et en accord avec les fondamentaux du fait que cette inflation sous-jacente est encore beaucoup trop élevée au Royaume-Uni et qu'elle n'autorise pas encore un pivot de la très vénérable Banque d'Angleterre. Je termine avec le taux USD/Yen. Alors le taux USD/Yen, je vous rappelle en toute transparence que moi, mon scénario initial avait été invalidé. Ça, je l'ai assumé pleinement, avec un marché qui a réalisé ici un breakout de la résistance. Du fait de quoi? Déjà, le report du pivot de la Fed, la force du dollar, mais aussi les doutes qui subsistent au sein de la Banque centrale du Japon, la BOJ, la Bank of Japan, qui a remonté ses taux de -0,1 à +0,1. Le consensus, désormais, mais c'est même plus que le consensus, ce sont les dernières communications de la Banque du Japon, disent qu'en fin d'année, on sera à +0,5. Alors, me direz-vous, la Fed à 5, +0,5. Ok, très bien, mais s'il faut regarder les taux du marché. Et ce que j'observe, c'est que les taux obligataires japonais, eux, cassent des résistances. Il faut regarder aussi le spread entre les taux japonais et les taux US. L'USD/Yen ne devrait pas avoir deux choix. J'avais proposé une vente sous résistance, j'ai eu tort, stoppé. Très bien. Maintenant, tant que ça tient les supports, c'est bien. Mais je pense, ça n'arrête pas de me dire qu'on est vraiment dans une zone d'excès haussier de fou. Et que viendra un moment où le taux USD/Yen va réintégrer les 152 et repartir au sud. Mais cette fois-ci, je n'anticipe rien. J'attends les cassures de support. Et le positionnement institutionnel n'indique absolument pas de renversement. Face au Yen, les institutionnels, ils restent baissiers sur le Yen. Ça peut changer, en tout cas, dans les dernières données disponibles, qui sont celles de la semaine dernière, hein, parce que c'est pas, y a du retard avec ces données, malheureusement, mais on peut voir la tendance. Donc, pour l'USD/Yen, je resterai quand même globalement prudent. Si vous reprenez le positionnement net long du dollar face aux autres devises, vous voyez bien que c'est vraiment face au Yen, que ça ne change pas. Donc, il y a une vraie difficulté par rapport à cela, du fait que ben voilà, les taux directeurs de la Banque Centrale du Japon, alors oui, vous avez eu une toute petite hausse de taux, et d'ailleurs, la BOJ annonce un taux à 0,5 pour la fin d'année, mais ça reste quand même extrêmement bas. Elle annonce un taux à 0,5 pour la fin d'année, et si vous regardez le 10 ans japonais, par contre, il se passe un truc. Sur le 10 ans japonais, vous avez une envolée des breakouts en données hebdomadaires. Ça commence à être sérieux, il n'y a pas de divergence. Je me dis, à un moment ou un autre, cette remontée des taux obligataires japonais va finir par produire un effet bullish sur le yen. Et qui dit effet bullish sur le yen, dit effet bearish sur le taux USD/Yen. Mais je ne ferai pas l'erreur deux fois. J'attends un signal. Qu'est-ce que c'est le signal à attendre? Le signal bearish ultime, ce serait de réintégrer ce niveau, les 152. Mais moi, je vous propose même qu'en cas de cassure des 153,60, je pense que la messe est dite. Je pense que si l'on casse ce niveau, les 153,60, on reviendra à 152 avec fracas et qu'on réintégrera. Mais pour l'instant, aucun signal de ce type n'est donné. Et donc, il y a sûrement parmi vous des gens qui ont eu raison et qui sont dans le sens de la tendance, vous avez là un niveau pour gérer votre risque. Toutes les personnes, les traders qui sont à l'achat sur USD/Yen, doivent mettre le stop sous ce support. Car casser ce support, pour moi, c'est que ma lecture. C'est la garantie de revenir ici. Bon. En tout cas, voilà, je voulais insister sur ce niveau. Ça me paraissait important. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un point court, mais je fais en sorte que le Fast and Forex soit court et que le Top Gun soit quand même plus long. J'espère quand même que ça vous a apporté des éléments intéressants. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que nous retenons? Il y a des pré-signaux de changement de positionnement des institutionnels sur le dollar, donc bullish Eurodoll, bullish GBP/USD notamment. Mais est-ce que ça vaut quelque chose tant que nous ne connaissons pas l'inflation US-PCE de vendredi? C'est la grande question. J'aurai la réponse vendredi, et je vous débriefe ça la semaine prochaine. Salut, merci de m'avoir écouté.